Dans le Yalkout, on dit que le plan initial d'Hachem, c'était de donner au Bnei Israël une fête pour chaque mois, c'est-à-dire en Nissan Pessah, en Iyar Pessah Sheni, en Sivan Shavuot, etc. Et par exemple, Shiva Asar Betamouz, ça devait être Rosh Hashanah, Yom HaZikaron plutôt, et Tisha B'Av devait être Yom Kippour. Donc, il y aurait eu pour tous les mois, on comprend très bien, tous les mois, la Simcha, c'est quelque chose d'important, donc tous les mois, l'occasion de se réjouir avec un Yom Tov. Et à la suite de la faute du veau d'or, une grande partie des fautes ont glissé sur le mois de Tishri. Pourquoi, pour l'instant, on ne va pas entrer là-dedans? Donc, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot dans le mois de Tishri. Comme tout le monde sait, Sukkot a un statut particulier parce que Sukkot fait partie des deux cycles, à la fois du cycle des fêtes de pèlerinage, comme on dit, c'est-à-dire de Pessah, Shavuot, Sukkot, et à la fois du cycle de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Donc, Sukkot joue un rôle particulier du fait qu'elle appartient aux deux cycles. Alors, c'est un sujet sur lequel je vais parler un peu de ce soir, aussi de choses sur lesquelles je n'ai pas encore, la vérité, suffisamment travaillé. Bon, les éléments, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y avait un problème, c'est que quand on regarde le texte de Parchat Pinchas, par exemple, concernant Yom Kippour. Alors, comme vous savez, dans Parchat Pinchas, il y a la liste des korbanot qui sont apportés à chacune des fêtes. Et d'ailleurs, on a la même chose dans Emor sur notre plan. C'est marqué sur Rosh Hashanah, c'est marqué le septième mois, le premier jour du septième mois, ce sera Yom Teruah, etc. À un certain endroit, ensuite on le dit les korbanot qu'on amène. Et on est dans le septième mois et on continue. Et ensuite, et le 10. Alors normalement, on devrait dire le 10 du mois, voilà, c'est Yom Kippour. Or le texte dit. Et le dixième jour de ce septième mois-là, c'est-à-dire, c'est marqué Chodesh HaShvi'i, alors il y aura Yom Kippour. Et on ne sait pas ce que veut dire ce mot Zé-là. On est déjà dans le septième mois. Qu'est-ce que tu veux me dire ici? Et on a le même problème dans Emor, aussi sur Yom Kippour, sur le Chodesh HaShvi'i HaZeh. Et ça va sur le. C'est le Zeh porte sur le mois, pas sur le jour. Plus bas, il y a sur le jour pour dire justement que les Inouïm, les cinq privations de Kippour, elles ne s'appliquent que le jour même de. Enfin, sur Yom Kippour lui-même, et pas, vous savez qu'il y a une mitzvah d'ajouter du chol sur et le transformer en kodesh, comme on le fait pour Shabbat. Eh bien, dans cet ajout-là, il n'y a pas les issourim des inouïm. Mais bon, technique. Mais là-bas, c'est marqué sur le jour. Mais ici, je vous parle du zé qui est écrit sur le mois. Et on a trouvé finalement que le Hamed Davar dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit qu'en réalité, le Zé en question fait référence effectivement au septième mois dont on a parlé quand on a parlé de Rosh Hashanah. Et il vient dire ici que si à Rosh Hashanah, on n'a pas sonné le shofar comme il se doit, alors l'année se déroulera pas vraiment comme il faut. Et il dit en particulier, ça c'est un texte général qui dit que Kol Shana, chez l'Omerim ou bien chez l'Ayutokim, à Rosh Hashanah, donc, eh bien, à la fin de l'année, enfin, la fin de l'année, elle ne se déroulera pas comme il faut. Alors, lui, il traduit, Yom Kippour ne sera pas ce qu'il doit être. Quelque part, Yom Kippour n'aura pas la puissance, la force qu'il devrait avoir, et Sukkot non plus. Avec Sukkot, il s'agit d'un nouveau problème, c'est que à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Comme vous savez, à Pessah, on est jugé sur la récolte des céréales, à Shavuot, sur celle des fruits, des arbres fruitiers, et à Sukkot, on est jugé sur l'eau, c'est-à-dire l'allocation d'eau pour l'année, et à ce moment-là, elle est décidée. Alors ensuite, évidemment, en fonction de la conduite des Bnei Israël, cette allocation, elle soit bien, plus ou moins bien répartie sur l'année. Ça reste encore, on peut dire, au jour le jour, en fait, en fonction de notre conduite. Mais la question qu'on a, disons, sur Sukkot, celle-là, cette question, on pourrait l'avoir sur Pessah et Shavuot aussi, c'est, puisqu'on est jugé sur tout à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui reste encore à juger à Sukkot? Alors, tout a l'air de se dire de la manière suivante, d'après ce que explique l'Amek Davar, le Netziv de Volozhin. Quelque part, Rosh Hashanah, c'est une espèce de préjugement global, en fait. Mais le vrai jugement concret, il a lieu à Pessah, à Shavuot ou à Sukkot. Donc maintenant, on va parler du jugement, d'un jugement qui porte sur l'eau. Alors, comme chacun sait, l'eau, c'est absolument fondamental. C'est quelque chose d'extrêmement important, évidemment. Et on voudrait bien essayer de voir exactement qu'est-ce que ça veut dire d'être jugé sur l'eau. Alors, il y a d'abord une première remarque que je voudrais faire, c'est que à Sukkot, il y a deux mitzvot, comme chacun sait. Il y a la mitzvah de Yeshiva Batsuka, fait d'habiter dans la Sukkah. Et il y a une autre mitzvah qui est la mitzvah du lulav, c'est-à-dire qu'il faut secouer le lulav. Et on dit, sur la Sukkah, on dit qu'il faut faire la mitzvah de Yeshiva Basukkah, et il y a une kavana à avoir, il y a une intention à avoir. Et celle-là, il faut l'exprimer, c'est un peu particulier à Sukkot, on doit dire, je vis dans la Sukkah, et le pasouk qu'il faut dire, c'est « Lema'an yedou dorotechem basoukot oshavti et bnei Israël » afin que vos générations sachent, c'est Hachem qui parle, que j'ai installé les bnei Israël dans des soukot au moment où je les ai fait sortir d'Égypte. Alors, il y a dans cette phrase deux choses qui nous frappe, c'est le man yedou, c'est un problème de da'at, de connaissance, de compréhension, et puis on parle de dorotechem, vos générations. Si on regarde la correspondance avec Pessah, à Pessah c'est marqué veigata levincha, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Là, vous voyez, là-bas, il s'agit non pas de da'at, mais de vehigata. Tu raconteras, tu te souviendras. Et on parle non pas à la génération, aux générations, Daniel, on parle ici à bincha. Donc, évidemment que ça nous oblige à réfléchir sur ces deux différences. Ce n'est pas le même verbe et on ne s'adresse pas, la mitzvah elle ne concerne pas le rapport avec la même personne. Dans un cas, c'est avec son enfant, avec la génération à venir, et dans l'autre cas, c'est toutes les générations.
Attends.
Donc, ici, on a Sukkot avec ses particularités. On va revenir là-dessus. Mais comme je vous ai dit, on a le problème de l'eau avec Sukkot. Le problème de l'eau, c'est en fait au premier abord, ce qu'on en connaît au premier abord, le problème de l'eau, c'est le problème de la pluie. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu déjà fréquemment, que l'être humain, Adam, en l'occurrence même Adam Arishon, le Gaon de Vilna dit que si tu veux savoir quelque chose, il faut regarder quand. La première occurrence de cette chose dans le texte de la Torah. Là-bas, on te donne quelque chose de fondamental. Et donc, si je veux savoir quelque chose sur Adam, je vais regarder la première occurrence de Adam dans la Torah. Alors, si on vous demande quelle est la première occurrence de Adam dans la Torah, vous allez me parler de la création d'Adam, mais vous auriez tort de dire une chose pareille. Parce que, curieusement, la première occurrence de Adam dans la Torah, on l'a déjà dit, je crois, c'est sous forme d'absence. C'est-à-dire, la Torah parle de Adam pour la première fois au sujet de la croissance des végétaux. La Torah raconte que quand Hachem a créé les végétaux, c'est-à-dire ce qui doit pousser en fait, eh bien, il les a créés, donc ils ont commencé à pousser. Seulement, ils n'ont poussé que à l'intérieur de la terre. Donc, ils ont affleuré. Quand il s'agissait de croître à l'air libre, en fait, si on peut parler comme ça, ils se sont arrêtés. Et la Torah dit pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. Dans Hachem, les végétaux, ils n'ont pas vocation à rester à l'intérieur de la terre. En tout cas, pas tous. Et alors, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier pour la pluie. Il n'y avait personne pour demander la pluie. Et donc, Adam, ici, il n'y avait pas d'Adam. Adam n'était pas. Donc, Adam n'est pas là. Donc, sa première occurrence d'Adam, c'est sous forme d'absence. Il n'était pas là. Mais en même temps, ça me donne une définition de Adam comme étant celui qui est en charge de prier pour la pluie. Mais de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire prier pour la pluie? C'est prier pour que ce qui doit croître puisse croître. C'est-à-dire, c'est quasiment prier pour la vie. Donc, l'homme est en charge de la vie dans le monde, de la vie du monde, finalement. Rien que ça. Ça, c'est la définition de l'homme. L'homme a été créé par Hachem pour assurer, pour prendre en charge la vie dans le monde. Bon. Nous sommes donc responsables. Comment est-ce qu'un homme peut prendre en charge la vie dans le monde? Alors, en même temps, je suis en charge. Je veux pour quel homme et quelle femme. Si homme voudra dire femme aussi. Hein. N'importe quel être humain est en charge du monde. Mais évidemment, il n'est pas capable du tout de faire fonctionner le monde. Alors c'est un peu un paradoxe. Il a une responsabilité dont il ne peut pas s'acquitter. Alors la vérité, c'est qu'il peut, oui, s'acquitter de ça. Il peut s'en acquitter. Pourquoi ? Parce qu'Hachem nous a donné les moyens de nous acquitter de cette charge. Comment ? Par la prière. Nous sommes en charge du fonctionnement du monde et c'est à nous à prendre conscience des nécessités du monde, des besoins du monde. Et maintenant, pour combler ces besoins, eh ben, il faut s'adresser à celui qui est le seul à pouvoir les combler, et s'adresser à Hachem. Et on a déjà vu plusieurs fois que le paradoxe de la tfila, par rapport à notre rapport avec Hachem, on se tient devant Hachem, on prie, et la tfila, et je vous rappelle, la tfila est un impératif. Le mode qui est utilisé, c'est l'impératif. L'impératif, c'est ce qu'on utilise pour donner des ordres. Ça veut dire, nous sommes en charge de faire fonctionner le monde et nous donnons des ordres à celui qui est capable de faire les choses dont nous sommes responsables. Alors, bien entendu, ça n'est possible que parce qu'Hachem nous a permis, nous a même ordonné de prier. Si Hachem ne permettait pas de la prière, il ne pourrait pas nous demander d'être en charge du monde, puisqu'on n'en a pas les moyens, évidemment. Alors, pour bien que les choses soient claires, celui qui donne des ordres, si on peut parler comme ça à Hachem, c'est quelqu'un qui doit à tout moment être bien conscient de sa petitesse. Je ne suis rien devant celui auquel Kvayachol je donne des ordres. D'accord, il faut une humilité énorme pour ne pas se prendre au sérieux, parce que sinon, si je m'imagine que je suis en position de donner des ordres, évidemment, je vais attraper la grosse tête et ça va mal finir. Alors, ça, c'est la condition humaine. C'est-à-dire d'être quasiment rien du tout, qui néanmoins est en charge et doit donner des ordres à Hachem. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Qu'Hachem, si vous voulez, si on peut parler comme ça, se fragilise en permettant qu'on lui donne des ordres. De toute façon, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, pourrait être reconnu dans le monde comme étant le Meller. Et comme Meller, c'est une royauté qui est acceptée par les sujets, dire « je veux être Meller », c'est se fragiliser par rapport à ceux qui sont seuls en position de te désigner comme Meller. Donc il y a une fragilisation, si on peut parler comme ça. Alors bien sûr, c'est complexe, on ne va pas entrer dans cette complexité-là maintenant. Donc, l'homme est en charge du fonctionnement du monde. Et dans le fonctionnement du monde, il y a la pluie. C'est-à-dire, il y a le problème de l'eau qui est partout. C'est pas pour rien que l'eau est comparée à la Torah. Souvent, on parle de l'eau et on parle de la Torah. Parce que l'eau et la Torah, c'est absolument fondamental. Les deux choses sont fondamentales. Et les deux choses sont quasiment premières. On ne voit pas la création de l'eau dans le récit de la création. Il n'y a pas de pasouk qui disent « Bayomer Hachem Yiyu Maim ». Non, ça n'existe pas. Mais on parle tout de suite de Maim. Notre rapport avec la pluie, c'est le rapport de l'homme avec la pluie, mais au bout d'un certain temps, Adam est devenu Israël. Enfin, plus exactement, c'est Israël qui joue le rôle d'Adam. Donc, les Bnei Israël ont une responsabilité par rapport à la vie dans le monde. On dirait que c'est vraiment la mégalo-juive, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde, y compris de la météo. Alors, c'est très, très important, l'eau. Et d'ailleurs, ce problème de la pluie est un problème tellement central qu'il y a tout un traité de la Gemara qui est consacré à ce problème de la pluie. Il y a un traité qui, c'est un peu trompeur, mais le traité s'appelle Ta'anit. Il parle des jeûnes. Mais il parle pas de Yom Kippour, Tisha B'Av, etc. Il parle des jeûnes qu'on est amené à faire quand il n'y a pas de pluie. La terre d'Israël n'a rien par elle-même. Certains disent que c'est pour nous obliger quasiment à nous tourner vers Hachem pour demander les choses à Hachem. En tout cas, ça vient nous aider à nous tourner vers Hachem, ça c'est sûr. Et donc, on doit demander la pluie. Et quand la pluie ne vient pas, alors il y a toutes sortes de procédures, de tfilot. Par exemple, il y a une tfila qui s'appelle Ne'ila. La Ne'ila que nous faisons à Yom Kippour, elle vient du Ta'anit, elle ne vient pas du Yom Kippour. Elle est liée avec le Ta'anit. Un Ta'anit de plus de 24 heures, enfin 24 heures, c'est un Ta'anit dans lequel, en général, il y a un Ne'ila. Bon, c'est un peu particulier avec Tisha B'Av, mais bon, pour l'instant, on ne va pas entrer là-dedans. Et justement, des Neilot, des Tfilot de Neila, il y en a effectivement quand on prie pour la pluie. Le problème de la pluie, il est, par exemple, présent dans le deuxième paragraphe du Shema. La Torah dit que si on fait les choses comme elles doivent être faites, alors on aura Geshamim Beitam. Hachem nous donnera les pluies en leur temps, au temps où nous en avons besoin. C'est-à-dire qu'en théorie, la pluie, elle devrait être telle que chaque goutte tombe au bon endroit et au bon moment. Ce serait la pluie. Et on lui dit tout de suite, maintenant, si tu fais pas ce qu'il faut, alors justement, la pluie, elle ne viendra pas. Mais si la pluie ne vient pas, alors c'est le désastre. C'est un terme, c'est la famine, c'est la fin du monde, en fait, si la pluie ne vient jamais. Donc, il faut savoir que quand dans la Torah, ou dans le texte de la Torah, mais c'est aussi dans le Kriyat Shema que nous disons, lorsque Hachem dit que voilà, il va bloquer les pluies, ça veut dire que d'une certaine manière, la prière ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas et donc il n'y aura pas de réponse à la prière. Et quand les gouttes de pluie tombent, bon, c'est le Shefa, c'est la Bracha d'Hachem qui vient en réponse à la Tfila, à la prière. Et donc quand la Torah dit mais si vous faites pas ce qu'il faut, alors, dans le chemin, on dit, vavatem mehera, vous allez disparaître rapidement. Il s'agit pas, on parle de la pluie, bien entendu, mais la pluie, c'est simplement ce qu'on appelle un ritimse, c'est-à-dire, c'est une situation naturelle présentée, mais qui est en fait un exemplaire d'un grand, grand principe, un grand principe, justement, qui est que il y a des situations dans lesquelles la tfila n'est pas reçue, et donc elle a pas de, il n'y a pas de réponse. Le Rambam, quand il décrit celui qui a fauté, il dit on peut être dans une situation où, effectivement, toutes les mitzvot ne sont pas reçues. Les mitzvot, elles doivent monter, quelque part, elles doivent avoir un impact. Et on peut être dans une situation où Hachem décide que j'en ai rien à faire de vos mitzvot, mais ça ne monte pas. Donc, c'est seulement la réalité de la pluie, c'est seulement une représentation de ce principe général qui est tout le problème de la prière. Mais que, avec Geshem, par Geshem, qui est la pluie, oui, que cette idée soit tellement importante, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un oublie Mashi Baruch ou Morid HaGeshem, c'est pas une louange particulière qu'il a oubliée, en quelque sorte, mais quasiment il a oublié ce qui est l'expression de la tfila. C'est la raison pour laquelle, en cas d'oubli, il faut recommencer. Alors, le mot pour la pluie, donc Geshem, c'est intéressant, il a une étymologie qui, en tout cas, semble être très proche de la notion de Hakshama. Hakshama, c'est, en fait, on pourrait dire, c'est la concrétisation, la réalisation. En araméen, Geshem, c'est le corps, c'est le gouffre. Et dans tout le Tanakh, le mot Geshem, c'est toujours la pluie. Alors, bien entendu, vous voyez bien cette idée de concrétisation, Geshem. Donc, on ne va pas creuser ici la question de savoir si Geshem vient de Hakshama ou que c'est Hakshama qui vient de Geshem. C'est pas mon sujet ce soir. L'eau fait pousser, elle produit quasiment tous les bienfaits de la création. Et maintenant, Adam, quel est le rapport de Adam avec tout ça, avec l'homme? Justement, le projet de la création, il est actualisé, il est concrétisé, il est réalisé grâce à l'homme. L'homme est en charge de justement réaliser ce projet de la création. Comme on dit dans Vaïchoulou, Asher Bara, la Sot. Hachem a créé la Sot. Mais celui qui doit faire les choses pour qu'on en arrive à la sotte, que ce soit fait, bien c'est l'homme. Et l'homme est appelé, très souvent, il est appelé shutaf avec Hachem, associé avec Hachem, b'maase bereshit. Pas seulement dans la prière. Par exemple, le dayan, qui dan din emet l'amito, un juge qui rend la justice en vérité, la vraie justice, il est appelé lui aussi Shutaf, associé à Hachem Bemaase Bereshit. Parce que mettre chaque chose à sa place, c'est aussi une shutfut avec Hachem. C'est pas exactement la même, mais c'est aussi une shutfut. Yaakov Avinu a ordonné à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël, comme vous savez. ce que Yosef a fait. Donc Yosef a enterré son père. Semble-t-il, c'est une grande chose. Parce qu'ensuite, le souci d'enterrer ultimement Yosef, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a eu. Vous savez, au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, comme Yosef avait fait promettre qu'on le sortirait d'Égypte et qu'on l'enterrerait en Eretz Israël, quand tous les Bnei Israël se sont occupés d'or et d'argent, etc., Moshe Rabbeinu, il s'est occupé d'une mitzvah. La mitzvah, c'était de récupérer les ossements de Yosef et de les transporter en Eretz Israël. Donc, c'est Yosef s'occupe d'enterrer Yaakov, Moshe Rabbeinu s'occupe d'enterrer Yosef, et c'est Hachem qui s'occupe d'enterrer Moshe Rabbeinu. Mais il y a dans le fait, dans ce souci et d'enterrer Yosef en Eretz Israël par Moshe Rabbeinu, il s'est trouvé, comme tout le monde sait, que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire la mitzvah jusqu'au bout, puisque Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas entré en Eretz Israël. Et parce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait la mitzvah jusqu'au bout, alors dans le texte, c'est marqué que ce sont les Bnei Israël qui ont enterré Yosef, et non Moshe Rabbeinu. Et de là, on apprend un grand principe, très grand principe, que celui qui termine une mitzvah, même si l'essentiel de la mitzvah a été fait par quelqu'un d'autre, celui qui termine la mitzvah, il a le mérite que la mitzvah est à son crédit à lui. Elle est inscrite en son nom. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. D'accord? La mitzvah d'enterrer Yosef, ultimement, elle est écrite au nom des Bnei Israël et pas au nom de Moshe Rabbeinu. Alors que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé de récupérer, comme chacun sait, Yosef qui était au fond du Nil, etc. C'est lui qui a mis, il a mis tout en place pour que Yosef soit enterré en Eretz Israël. Il a fait une partie du, il a fait toute la partie qui lui était possible, mais il n'a pas pu terminer. Alors la mitzvah, elle s'appelle pas mitzvah de Moshe Rabbeinu, mais mitzvah d'Ibn Israël. Ça, c'est un principe général. On est jugé à Sukkot sur l'eau, à la main. Mais justement, Sukkot, vous souvenez, on a dit que à Pessah, on est jugé sur les céréales, à Shavuot, sur les fruits des arbres, à Sukkot, sur l'eau. Mais Sukkot fait partie de l'autre sigle, cycle aussi. Donc Sukkot, c'est Dafka après Yom Kippour. C'est-à-dire que ce jugement sur l'eau, il a lieu d'Afka après Yom Kippour. Alors, je vous ai dit qu'il y a un petit problème avec ce Chodesh HaShvi'i Hazé. Que le Netziv avait beaucoup travaillé dans sur ce sujet-là. Et du coup, on comprend, d'après ce que m'a expliqué le Netziv, que d'une certaine manière, Sukkot, c'est le point culminant des deux cycles. dans le cycle des fêtes de pèlerinage, dans le cycle des récoltes, si vous voulez, à Sukkot, ce sont toutes les récoltes qui sont terminées. En quelque sorte, à Sukkot, on prend la mesure de tout ce que l'année a produit, en fait. Donc, Sukkot, c'est l'essentiel, d'une certaine manière. C'est comme si toutes les récoltes intermédiaires, en fait, elles ne prennent leur sens qu'à l'intérieur de l'ensemble des récoltes. De la même manière, Rosh Hashanah et Yom Kippour, de ce point de vue-là, ont l'air d'être, d'une certaine façon, au service de Sukkot. À Sukkot, c'est le point culminant. Et donc, Sukkot est justement après Kippour, parce qu'on a besoin du travail qui a été fait à Kippour, qui est un travail partiel, si on peut parler comme ça, et on a aussi besoin de ce qui a été fait à Rosh Hashanah, cette fameuse Tkiyat Shofar qui était fondamentale, dont j'ai rien dit parce que je ne sais pas encore exactement pourquoi c'est si fondamental. Je vous ai dit, je suis en train d'y réfléchir, pour l'instant je n'ai pas de bonne solution. Mais en tout cas, Sukkot a besoin de ce que Yom Kippour va lui donner. Lui a donné, en fait. Alors évidemment, ça veut dire que quelque chose va se produire à Sukkot, peut-être dans ce fameux jugement sur l'eau, puisque comme vous savez, à Sukkot, tout tourne autour de l'eau. À Sukkot, on a des libations d'eau. C'est-à-dire, on va verser de l'eau sur le misbéach. On ne fait jamais ça toute l'année. On fait bien des libations, mais c'est des libations de vin. Je crois que ça n'existe nulle part de faire des libations d'eau. Enfin, non, ça, je ne connais pas toutes les civilisations, mais a priori, c'est du vin qu'on fait, avec le vin qu'on fait les libations. Nous, on fait à Sukkot des libations d'eau, en même temps que les libations de vin, d'ailleurs. Mais peut-être Sukkot, ce n'est pas seulement le problème de l'eau. Ou peut-être que le problème de l'eau est un représentant de quelque chose d'encore plus fondamental. Si l'eau représente la Torah, on comprend bien quelque chose de très important se joue là. Et donc, la composante de Yom Kippour, c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec la tshuva, puisque la caractéristique de Yom Kippour, c'est ce jour de la tshuva. Donc, c'est clair que le jugement sur l'eau, enfin que Sukkot, en fait, a besoin de la contribution de la tshuva. La tshuva va être un élément constitutif de ce qu'est vraiment Sukkot. On a vu que les Taryag Mitzvot, les 613 Mitzvot, elles se décomposent en 248 Mitzvot positives et 365 négatives. C'est-à-dire, en 248 mitzvot positives, c'est un chiffre qui correspond à une certaine façon de dénombrer les parties du corps. Et 365, chacun sait que ça fait référence au jour de l'année solaire, la majorité du temps. Par conséquent, les mitzvot correspondent, les positives au corps, les négatives au temps, d'une certaine façon, à l'ensemble, à la suite des jours. Et donc, les tariag mitzvot, elles correspondent au corps humain placé, à l'être humain placé dans le temps. Non. Adam fait des efforts. Il fait des efforts pour, grâce à ses mitzvot, grâce à sa avoda, pour actualiser, pour concrétiser, si vous voulez, une certaine forme de l'être humain, qui est la forme kedusha de l'être humain. Il y a l'être humain, puis ensuite, il y a la prise de conscience par cet être humain de sa singularité, le commencement de la kedusha, la séparation, il est séparé des autres êtres. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a tout un travail qui est fait pour faire retomber l'humain dans l'animal. C'est jamais qu'un animal parmi d'autres. La Torah, elle dit exactement le contraire. La Torah donne beaucoup d'importance au monde animal aussi, mais l'homme, c'est autre chose. Qu'il y ait du côté, qu'il y ait des aspects animaux, si vous voulez, chez l'être humain, bien sûr. Un nefesh ha-ba'amid, ça existe. Mais justement, les mitzvot, elles sont justement là pour permettre de donner à l'homme une forme différente qui s'appelle la forme kedusha de l'être humain. Les mitzvot, on fait ça toute l'année. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont appelées ta'alumot alev, une espèce de secret, en quelque sorte, du cœur, des profondeurs cachées. Et ces profondeurs cachées, profondeurs de l'âme en fait, ne se dévoilent que par la tchouva. Dans la tchouva, il y a quelque chose, bien sûr, pour certains la tchouva c'est une mitzvah, pour d'autres c'est pas une mitzvah en tant que telle, mais même ceux qui pensent que c'est une mitzvah, mais c'est aussi autre chose qu'une mitzvah. C'est un processus tout à fait extraordinaire, dont on a déjà dit beaucoup de choses, en particulier que c'est quelque chose qui a préexisté au monde, le processus de tshuva. C'est ce qui permet en quelque sorte à l'être humain de réviser ses positions, de changer le monde, changer le passé, en ce qui concerne son impact sur le présent et possibilité, on a toujours besoin du passé pour fabriquer du futur. Alors, il y a ces choses-là qui sont tellement profondes que pour qu'elles se dévoilent, il faut une tchouva, il faut quelque chose qui puisse aller très, très profondément dans l'être humain et le bouleverser complètement. Et ça, c'est ce que Yom Kippour apporte. La contribution de Yom Kippour, c'est justement d'ajouter à tout ce que les mitzvot et la avoda apportent à la construction de l'être humain, une dimension supplémentaire qui tient compte des choses les plus cachées, les plus profondes dans l'être humain. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître les choses les plus cachées, les plus profondes? Parce que, étant donné que c'est l'homme qui est en charge de faire advenir, faire en sorte que toutes les potentialités du monde s'actualisent, c'est-à-dire adviennent, vraiment deviennent réelles, c'est ça, c'est lui qui est en... Voilà, il y avait une potentialité des végétaux, voilà, ils sont là, mais pour qu'ils deviennent réels, vraiment réels, il fallait la tefila de l'homme, il faut que l'homme puisse le faire. Or, la prière de l'homme, elle vient, ça doit prier, venir de l'intérieur, du plus profond, donc ça doit tenir compte de tout l'être humain pour faire ce travail. Et donc, quand on parle d'être jugé sur l'eau, c'est en fait être jugé sur la question de savoir dans quelle mesure, jusqu'où exactement, l'homme est-il capable de faire en sorte que toute la création s'actualise vraiment. Que tout effectivement se concrétise, que toutes les potentialités du monde se réalisent. Lorsqu'on travaille là-dessus, on accède aussi à ce qu'on appelle Anane Kavod, les fameuses nuées de gloire. On va essayer de dire quelque chose quand même sur ces Anane Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire, les nuées de Kavod? Quel Kavod est-ce qu'on parle ici? Alors regardez, après la Mila d'Avraham Avinu, Pasuk dit « Vayera Elav Hashem ». Littéralement, ça veut dire « Hashem s'est donné à voir à Avraham ». Et le Ramban fait remarquer que voilà, Hachem s'est dévoilé à Abraham, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de mitzvah. Il y a rien à circuler, si vous voulez, au sens habituel du terme. Alors, à quoi ça a servi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand Hachem, Vayera, Hachem est là? Qu'Hachem se soit donné à voir, si vous voulez. Ça veut dire que quelque chose, qu'Avraham a vu quelque chose. Il n'a rien entendu, il n'a rien reçu, il a vu quelque chose. Donc il a compris quelque chose, voir quelque chose, voir complètement, ça permet de comprendre quelque chose. Avraham Avinu, en voyant quelque chose, il a eu en quelque sorte une forme d'élévation par rapport à ce qu'il était, ce qu'il ne voyait pas jusque-là. Quelque part, il voit quelque chose. Cette élévation, cette opération, elle lui donne en quelque sorte un certain poids. Il existe différemment après avoir vécu cette élévation, Avraham. Le poids, on l'a déjà dit très souvent dans ces shiurim, le poids, c'est ça le kavod. D'accord. La notion de kavod, c'est du poids. Quand on donne à quelqu'un du kavod, ça veut dire qu'on lui donne du poids. Donc, quelque part, cette vision qu'Abraham a eue, le fait qu'Hachem se soit donné à voir à Abraham Avinu, ça lui a donné du kavod, du poids. Ramban donne d'autres exemples. Il donne par exemple l'exemple, il donne en particulier l'exemple de dans le pasouk, c'est marqué Vayivgeu bo malaché Elokim. Là non plus, pour Yaakov, il n'y a pas eu de parole. Quand il est. Ils lui sont rentrés dedans quasiment. Pas de parole, il n'y a pas de ridouche. Mais il a vu ces Malaché Elion. Et du coup, il a su, il a compris que ses actes étaient agréés. Donc, ça lui a donné un poids. Yaakov, il le savait pertinemment qu'il y avait une Shmira, qu'il y avait des Malachim qui le gardaient. La nouveauté ici, c'est qu'il a vu. Il savait, maintenant il l'a vu. Ça veut dire, Hachem a fait en sorte que les choses soient visibles par lui. Et du coup, Vaikra Hachem Amakom, donc il a appelé cet endroit Mahanaim, les camps. Ce dévoilement lui a donné du kavod, en quelque sorte. Ça l'a rempli en quelque sorte de cette élévation, ça l'a devenu plein en quelque sorte. Les Anané Kavod, les fameuses nuées de gloire, justement, elles donnent du Kavod aux hommes qui savent, ils sont entourés de nuées. D'après le Gaon de Vilna, les Bnei Israël, au début, ils étaient bien, il y avait bien effectivement des ananimes un peu partout, tout autour d'eux. Mais le Gaon dit que c'est un anime qui était là avant la faute du Hegel. Ils étaient là, mais seuls les Nevi'im, seuls les prophètes les voyaient. Ça veut dire que les autres, il y avait des anonymes, mais ça ne leur donnait pas plus de poids, si vous voulez, parce qu'ils ne les voyaient pas. Ces anonymes-là sont partis avec le Hegel, après la faute du Hegel, et ils ne sont revenus que à Yom Kippour. Et c'est pour ça, dit le Gaon de Vilna. Vous savez que quand la Torah dit ce que je vous ai cité, Levan Yedou Dorotechem Kiba Sukot Oshavti, dit Hachem. C'est quoi ces Sukot? Alors, Rabbi Akiva dit, c'est les vrais Sukot, les tentes de Kabbal. Rabbi Eliezer dit, non, c'était les Anané Kavot, les fameuses nuées de gloire. Tous les décisionnaires ne parlent que des Anané Kavot. Personne ne parle. Tout le monde, personne ne tient compte de ce que dit Rabbi Akiva. Tout le monde parle comme Rabbi Eliezer. Le Gaon répond à la fameuse question. Dans le verset que je vous cite, Leman Yidou Dorotechem, qui va Sukkot Oshavti et Bnei Israël, quand je les ai sortis d'Égypte. Quand est-ce qu'il faut faire Sukkot alors? Il faut faire Sukkot quand on est sorti d'Égypte. Donc il faut faire Sukkot en Nissan. Pourquoi on fait Sukkot en Tishri? Alors il y a toutes sortes d'explications qui disent que il faut, c'est justement au moment, à la fin de l'été, quand tout le monde replie ses cabanes en quelque sorte, parce que voilà, c'est, on en a eu besoin parce qu'il faisait très chaud, alors on pouvait pas supporter de rester à l'intérieur, donc on prenait ses repas, peut-être on dormait, on se reposait dans les cabanes, sur les terrasses, je sais pas. Mais que pour bien montrer que ce qu'on fait, c'est pas pour notre confort, mais pour obéir à Hachem, alors on a repoussé ça jusqu'au moment où il est clair que si je vais dans la cabane, c'est pas pour mon confort. Le Gaon dit différemment. Le Gaon dit, les ananimes de Yetziat Mitzrayim, qui étaient là depuis Yetziat Mitzrayim, ils sont partis avec le Hegel. Donc, on ne pouvait pas faire quelque chose qui avait un rapport avec les Ananeh et Kavod alors qu'on ne les avait plus. C'est seulement quand ils sont revenus à Kippour, alors on fait Sukkot juste après Kippour. Parce qu'à ce moment-là, les Ananeh Kavod, ça veut dire quelque chose. Donc, Ananeh Kavod, ce sont des Ananim qui, effectivement, indique la gloire de Hachem, mais en fait, c'est quelque chose qui donne aux hommes, parce que c'est pas la protection seulement. Pour ça, on a besoin que des ananimes, protection de feu, etc. Mais que ça soit kavod, c'est-à-dire que ça nous donne du poids à nous, c'est quand, effectivement, je ressens que Hachem se donne à voir d'une certaine manière, que Hachem vient à ma rencontre, et ça donne du poids, comme ça donne du poids à Abraham quand Hachem vient à sa rencontre, ou Yaakov quand il rencontre les malachim. Probablement que Rabbi Akiva, qui dit que, selon ton parle, ce sont vraiment de cabanes, Rabbi Akiva ne peut pas nier qu'il y avait des Ananeh Kavod. Mais Rabbi Akiva dit, en réalité, quand les Bnei Israël se sont retrouvés dans le désert, ils ne pouvaient pas construire de cabane non plus. Avec quoi ils allaient construire des cabanes? Il faut donc dire que Hachem leur a donné, je ne sais pas, des tissus de tente pour se faire des tentes, ou alors il leur a, je ne sais pas, envoyé à chacun, je ne sais pas combien de bambous, etc., pour faire des cabanes. Donc il y a déjà un énorme miracle. Les Bnei Israël se sont donc construits des tentes. Comme le dira plus loin, plus tard, Bilham, ils ont fait attention dans la position des tentes les unes par rapport aux autres, de veiller à la possibilité de la tzniout de chacun dans sa tente, d'être chez lui sans que l'autre voit ce qui se passe chez lui. Il suffit de placer les ouvertures de telle sorte qu'on ne puisse pas voir. Donc les Bnei Israël ont bien, voilà, ils ont réussi à tenir compte de tout cela, c'est-à-dire de construire des tentes qui soient la bonne façon de résider, en quelque sorte. Et Akadosh Baruch Hu a vu que puisque vous faites ce qu'il faut ici, alors moi je vais vous englober dans une grande tente, en quelque sorte, qui vous coupera des autres, qui vous protégera de tous les autres peuples, etc. Puisque vous voulez effectivement chacun servir Hachem à sa manière, alors je vais vous aider à servir sans qu'il y ait aucun impact d'aucun élément extérieur. Et ça, seulement Rabbi Akiva dit, il faut penser, quand nous faisons les choses, il faut penser aux petites choses par lesquelles ça a commencé. C'est parce que les Bnei Israël ont eu cette démarche de tzniout, de vouloir servir chacun à sa manière, etc. Pas simplement être un troupeau. Hachem a dit, ok, dans ce cas-là, moi je vais, vous voulez une singularité, c'est ça de la Kdusha, alors je vais vous donner les Anané Kavod qui vont vous aider, en quelque sorte, à cela. Rabbi Akiva dit, bon, mais moi je veux que les gens se souviennent que c'est dans la façon de construire sa tente, sa cabane, que tout a commencé. Bien sûr, après, on a eu les Anané Kavod. Rabbi Eliezer dit non, moi je ne m'occupe pas de savoir comment ça a commencé. L'important, c'est que finalement, on avait le Klal Israël avait des Anané Kavod. Donc finalement, il y a une machloquette, mais la machloquette, elle est plutôt sur la façon dont il faut commémorer, si on peut parler comme ça, ce souvenir et se remettre dans la situation, quelque part, d'Ebnei Israël. Est-ce qu'il faut se rappeler les tout commencement ou est-ce qu'il faut se rappeler là où on en est arrivé? C'est déjà une marloquette d'un autre type, en fait. Donc, Sukkot, c'est donc ce moment où, effectivement, on va pouvoir, justement, rassembler et tout ce qui va dans le sens justement du travail pour dévoiler, pour que le monde soit aussi concret, c'est-à-dire que toutes les potentialités, dans toute la mesure du possible, les potentialités du monde soient systématiquement actualisées avec la composante des choses, le niveau le plus profond de l'être humain qui est donné par Kippour. Et on voit bien que Sukkot fait bien ce travail-là de sommation, en quelque sorte. Parce que tous les chagim, il y a une mitzvah de simcha. À Pessah, il y a une mitzvah de simcha. À Shavuot, il y a une mitzvah de simcha. En vérité, il y a pratiquement une mitzvah de simcha, même à Rosh Hashanah, Yom Kippour, sauf qu'on ne peut pas l'exprimer complètement parce que, comme dit Hachem, c'est difficile quand on est en train de jouer sa vie, ou on est à la vie ou à la mort. On n'a pas tellement la tête à exprimer la simcha. Mais on aurait dû dire Hallel, d'après ce que dit Hachem. On aurait dû dire Hallel, il est d'accord, oui, on aurait dû, mais ce n'est pas possible, on n'arrive pas à se concentrer. Mais maintenant, à Pessah, bien qu'il y ait de la simcha, bien qu'on ait une mitzvah de simcha, y compris, bon, il faut se mettre en joie en mangeant de la viande, en buvant du vin, etc. Mais Pessah n'est pas présenté comme un temps de simcha. Yad la simcha, mais Pessah, c'est Zman Chéroteinu. Idem pour Shavuot, c'est Zman Torateinu, Matan Torateinu. Mais Sukkot, Sukkot, c'est Zman Simchateinu. Pourquoi il y a plus de simcha à Sukkot que les autres? Oui, à Sukkot, il y a une espèce de totalisation de la simcha qui est liée à Chéroteinu, à la libération, à la naissance du peuple, à la simcha qui est liée au don de la Torah. On totalise tout ça. Et on fait tout ça à quand? Le Chaga Asif, la fête où on rassemble les choses, toujours. On rassemble les récoltes, en quelque sorte, et on rassemble aussi ce qui a été gagné à Pessah et à Shavuot, mais aussi, comme on l'a vu, aussi le produit de l'autre cycle, de Rosh Hashanah et Kippour. Tout ça, c'est mis au service de Sukkot, si on peut parler comme ça. Parce qu'à Sukkot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quoi exactement qui correspond à cette notion de rassemblement de tout? On a dit, Pessah, c'est la naissance du peuple, Shavuot, c'est le don de la Torah. Quel est le grand moment de l'histoire? Le troisième grand moment de l'histoire, c'est la fin des temps. Alors, Pessah, c'est la naissance, Shavuot, c'est le matin de Torah, et Sukkot, c'est la référence au grand moment, c'est-à-dire à la fin des temps. La fin des temps, c'est les Bnei Israël prennent jusqu'au bout en charge le monde. Par exemple, ils vont apporter des korbanot pour les goïm. On apporte pendant Sukkot, durant les 7 jours, 70 taureaux comme corbanote pour les goïms. Les goïms qui n'en savent éventuellement rien du tout, mais voilà, on a ce souci à Sukkot parce que Sukkot représente d'une certaine façon le moment de la fin des temps. Et dans le Navi Yirmiya, on voit qu'il dit que la fin des temps, ce sera un temps. On n'aura plus besoin d'enseigner. Pourquoi on n'aura plus besoin d'enseigner? Parce que tout le monde saura, tout le monde connaîtra Hachem. Ah, tout le monde connaîtra Hachem. Tout le monde à égalité connaîtra Hachem en quelque sorte. C'est pour ça qu'on dit les man yedou de Rotechem. Le dat, la connaissance. Et pourquoi Dorotechem? Parce qu'à la fin des temps, toutes les générations seront sur le même plan. Les petits, les grands, tout le monde connaîtra Hachem. Et donc, à la fois le Dat et à la fois le Dorotechem. Alors qu'à Pessah, c'est le moment où on introduit en quelque sorte les racines de la Kdusha. Dans le clan d'Israël, on enracine la Emouna. Dans cette Emouna, il y a tout le Bekoar, tout ce qui est potentiel, qui doit, au cours des temps, être dévoilé au monde par le clan d'Israël. Et par conséquent, à ce moment-là, à Pessah, on dit Végata levincha, tu transmettras à la prochaine génération. Donc, on a pendant 7 jours par an, le Chaga Asif, c'est rassemblement de toutes les forces, de tout le travail de toute l'année. Tous les efforts investis dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, sont rassemblés. Y compris ce qu'on a découvert, comme on dit, le Tzom Pish'i, à Kippour. Et à Sukkot, à Chag Sukkot, on en fait quelque chose de concret, les secrets de l'âme en quelque sorte. Kol Ezrach Yeshuv Basukkot. Kol Ezrach B'Israël Yeshuv Basukkot. Ezra, c'est la référence à Abraham Avinu. Tous les descendants d'Abraham Avinu, dans la version Abraham Yitzhak Yaakov, ont dans leur nefesh des forces qui viennent des Avot, qui sont ce qu'on appelle les caractéristiques d'Ebnei Israël, Rachmanim, Beishanim, Gomlei Chassidim. Et à Sukkot, ces caractéristiques, qui sont en quelque sorte des points d'ancrage, ils deviennent concrets. Ils sont représentés par les fameux Ushpizin. Les invités qu'on a à Sukkot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, il y a des ordres un peu différents, ça devient des personnages sur lesquels s'appuyer, c'est-à-dire qu'on peut prendre en modèle. Ça, c'est la soupa. Mais il y a aussi le problème de la simcha. On a vu, il y a aussi un cumul des smachot de la simcha de à Sukkot. Il y a toujours cette prendre ensemble. Donc il y a cette idée de bouquet, en quelque sorte. On prend ensemble le bouquet en même temps que le hétrog. Le hétrog, c'est un fruit. Donc c'est l'aboutissement de la croissance. Et dans le bouquet, il y a l'expression des différentes sortes de avodot, toutes les façons qu'on a de servir Hachem, puisqu'il y a, comme vous savez, dans le bouquet, il y a ce qui donne du tam, c'est-à-dire des fruits qui donnent du tam, qui donnent du réach, etc. Et puis, y compris le sol, qui ne donne rien du tout. Mais tout ça, ça forme le clan Israël. Et la spécificité, c'est que on nous demande de nous réjouir avec le loulav. Les Bnei Israël, ils se baladaient toute la journée avec leur loulav. Et en particulier, on se réjouit avec le loulav, c'est-à-dire on dit le hallel avec le loulav. C'est le summum du hallel qu'il est dit avec le loulav. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a cette notion de rassemblement, de bouquet, c'est-à-dire le clan Israël avec tout ce que ça représente ici, l'expression de toutes les façons de servir Hachem qui chante la gloire d'Hachem, c'est-à-dire le hallel. Le hallel, c'est une sélection de chapitres ou de portions de chapitres de Teilim, c'est-à-dire en Ramim, on choisit avec leur capacité de choix, parce que nous, on n'aurait peut-être pas choisi pour exprimer le Hallel certains des chapitres qui sont dans le Hallel. Des chapitres où on se demande exactement qu'est-ce qu'on est en train de... C'est du Hallel, ce qu'on est en train de dire là. C'est, bien sûr, c'est la louange d'Hachem, mais est-ce que c'est vraiment l'expression de la joie? Il faut regarder de plus près, effectivement, ce que représente cette expression de la joie. Voilà ce que je voulais vous dire sur Sukkot. S'il y a des questions.
Où est-ce que
je n'ai pas compris la fin de la question.
Le Makor, où est-ce que je peux le retrouver? Dans quel sefer?
Excuse-moi, je n'ai pas compris. Makor de quoi?
Le Gaon, quand il parle d'Adam et Arishon, qui est l'apparition d'Adam et par l'absence. Où est-ce que ça...
Ah, ce n'est pas le Gaon qui a dit. Le Gaon, Adam par l'absence, c'est moi, c'est toi aussi.
Ah, okay.
D'ailleurs, ce passage, on verra bien.
Okay. Et une autre question est... Comment le kavod est devenu kouved? Marcelioine, si. Comment il s'est dégradé tellement?
Et qu'est-ce que je peux peut-être te dirais, tu es encore un peu jeune. Tu verras quand tu seras plus vieille, tu comprendras ce que c'est le cabot. Donc, question?